Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce verset est très connu, bien connu. Quand on parle de baptême, on se le remémore souvent. Mais ce qui a attiré mon attention cette fois-ci, c'est cette petite phrase placée avant. Avant cet impératif que Jésus donne à ses disciples, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. » Et en conséquence de ça, Jésus donne cet ordre à ses disciples « Allez, tout pouvoir lui a été donné. » Ces mots sont forts. Rien au ciel, rien sur la terre n'a plus de pouvoir que Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Ces paroles sont fortes, consolantes et rassurantes. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, que par ton Fils Jésus, tu as tout accompli. Tout pouvoir t'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Seigneur, cette parole est rassurante, consolante, mais peut-être nous laisse aussi dans l'incompréhension. Combien de fois on entend « Mais si Dieu existe, pourquoi la souffrance ?» Ces questions-là ont fait l'objet de débats, etc. Seigneur, en exposant ta parole ce matin, nous allons nous concentrer sur la vie nouvelle que tu nous donnes en toi. Et Seigneur, nous te remettons aussi l'offrande qui a été récoltée. Oui, Seigneur, qu'elle soit le fruit de notre reconnaissance et le moteur aussi pour nous aider à poursuivre notre mission d'Église, de te faire connaître. Oui, Seigneur, qu'au travers de cette offrande, ton nom soit glorifié. Amen. Oui, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et j'aimerais qu'on puisse partager ensemble un texte de l'épître, tiré de l'épître de Paul aux Romains, qui nous explique finalement comment ce pouvoir de Jésus se concrétise. Et je vous donne déjà la réponse, c'est la vie nouvelle qu'il nous donne. Et je vous invite à lire Romains 6. Romains 6, à partir du verset 3, je vais le lire directement là. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Et je poursuis plus loin au verset 11. « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Tout un programme, comme toujours avec l'apôtre Paul. Des mots forts, des mots percutants. Et ces lignes nous parlent d'une vie nouvelle. Ce verset 4 qui nous dit « De même que nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Et le baptême est comme un sceau déposé dans notre vie attestant cette vie nouvelle. Oui, par le baptême, nous allons attester que nos frères Jérémie et Dirksy vivent de cette vie nouvelle. Alors, qu'est-ce que cette vie nouvelle ? Qu'est-ce que le Christ nous offre dans cette vie? Et je vous proposerai une petite méditation pour répondre à cette question du baptême de Jésus et puis de prendre aussi quelques textes qui nous parlent du thème de l'eau dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus nous offre ? Ce texte de l'apôtre Paul nous parle d'adoption. La vie nouvelle commence dès lors que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Dans notre jargon évangélique, on appelle ça la conversion. Et le baptême et le sceau est un signe qui certifie cette adoption. Le verset 5 est d'une grande profondeur lorsqu'il dit « En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Si nous avons été unis, le verbe « unir » est utilisé. Et ce verset 5 nous renvoie à Jésus directement, sans intermédiaire. Jésus qui est venu sur terre et qui s'est aussi fait baptiser. Avait-il besoin de se faire baptiser ? Non. Mais par son baptême, il s'est identifié à nous parce que nous méritions de mourir à cause du péché. Finalement, c'était là le juste jugement de Dieu. Nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas plaire parfaitement à Dieu. Conséquence de la justice et de la sainteté de Dieu, nous devons mourir. Jésus a montré la voie. L'eau du baptême est un signe de jugement de Dieu. On le voit dans le livre de la Genèse, chapitres 6 et 7, avec l'histoire de l'arche de Noé, où Dieu envoie un déluge pour détruire la terre. Seul Noé, sa famille et un couple de chaque espèce animale sont épargnés. Genèse 6, l'eau, symbole de jugement. Bien que Jésus n'ait jamais péché, Jésus est quand même mort de la main d'hommes pécheurs, prenant sur lui la colère contre le péché. Jésus est entré dans cette eau du jugement, à notre place. Retenons d'abord que l'eau est un symbole de jugement. Mais l'eau est aussi un élément essentiel à la vie. D'ailleurs, on cherche s'il y a de l'eau sur Mars, c'est potentiellement qu'il peut y avoir de la vie. Dieu a bien créé les choses. L'eau est essentielle à la vie. Avant que la lumière ne fût, la Genèse nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et l'Apocalypse nous dit, là je fais un petit saut dans le temps, lorsque Jésus reviendra glorifié, pour inaugurer pleinement son royaume, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, un fleuve de vie coulera du trône de Dieu jusque dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 22, versets 1 et 2, pour ceux qui aiment les références. Donc l'eau est d'abord un symbole de jugement, mais aussi un symbole de vie. Et on pourrait encore faire un excursus dans le livre du Lévitique, où l'eau est symbole de purification. Je n'en ai pas le temps ce matin. On pourrait reprendre cette thématique de l'eau et voir comment elle traverse la Bible. C'est assez riche. Quand Jésus s'est fait baptiser, il a été précipité, on l'a plongé dans les eaux du jugement. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions boire l'eau de la vie éternelle. Alors que cette phrase n'est pas de moi, c'est un commentateur. Elle est tellement bien que je vous la relis. Lors de son baptême, Jésus a été précipité dans les eaux du jugement afin que je puisse boire l'eau de la vie éternelle. N'est-ce pas beau, Jérémie et Dirksi ? Oui. Au baptême de Jésus, nous voyons aussi la présence de la Trinité, des trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Jésus est baptisé et puis le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Comme si ça ne suffisait pas, il y a la voix du Père qui retentit avec une certaine fierté sûrement. Il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Ce baptême de Jésus Il n'était pas obligé de le faire. Mais il s'est identifié à nous par son baptême. Et toute la Trinité était impliquée dans ce moment-là. Le baptême de Jésus préfigure la croix. À la croix, il a porté le jugement de Dieu qui nous revenait. Et quand on entre dans les eaux du baptême, comme tout à l'heure, Dirksy et Jérémy vont le faire, l'eau n'est pas magique, l'eau n'amènera rien. Mais cet acte de plonger dans l'eau et de ressortir symbolise une réalité intérieure. Cette réalité, c'est que on confesse qu'on était ennemi de Dieu et qu'on entre dans les eaux du baptême du jugement. Bonne nouvelle, on relève le baptisé. On ne le laisse pas au fond. Ça paraît absurde, mais la symbolique est belle. On le relève, on le ressort, parce que Jésus a pris sur lui la punition, le jugement qui revenait. Et finalement, c'est une identité nouvelle. Ce n'est plus l'eau du jugement, on le plonge dans l'eau du jugement, mais on le ressort dans l'eau de la vie éternelle. Voilà ce que le baptême symbolise. Lorsqu'on ressortira Jérémie et Dirksy de l'eau, c'est un temps où nous accueillerons nos frères comme membres de notre famille, comme frères et sœurs du Fils de Dieu, comme co-héritiers du royaume éternel. Oui, le baptême symbolise cette vérité où nous pouvons appeler Jésus notre frère et Dieu notre Père. Le baptême nous réhabilite dans cette famille de Dieu. Le péché nous en a exclus. Le baptême symbolise, pardon, ce n'est pas le baptême qui nous réhabilite, mais le baptême symbolise cette réhabilitation dans la famille de Dieu. Et par conséquent, le baptisé est aussi frères et sœurs de toutes celles et ceux qui croient, puisque Jésus est notre grand frère. L'Église est notre maison. L'Église est l'endroit où, malgré nos différences, nos désaccords, nos opinions différentes, nos coups de gueule des fois, nos joies, nos peines, c'est quand même le lieu où on se rassemble ensemble pour déclarer que nous adorons le même Sauveur et Seigneur. Paul n'a-t-il pas dit « Il n'y a qu'une seule foi, qu'un seul baptême ». Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que tout ce qu'on a parlé jusque-là, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous n'avons qu'à l'accepter. Il s'agit pour nous de nous repentir, dire « Mais Seigneur, je ne peux pas me sauver par moi-même. J'ai besoin d'un sauveur comme toi et toi, tu as payé le prix pour moi. » On est revêtu gratuitement de cette nouvelle identité, de cette adoption. Mais ça ne nous encourage pas à la passivité, non. Nous ne sommes pas dans une salle d'attente en attendant la réalité glorieuse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Il s'agit de cheminer maintenant, de cheminer. Et c'est ce verset 11 qui nous dit finalement, « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Non, la conversion, le baptême ne nous rend pas parfaits. On continue à être dans nos enveloppes charnelles. Je ne sais pas pour vous, mais je continue à pécher. C'est important que je puisse revenir toujours vers Dieu avec cette attitude de repentance. Mais je n'ai pas besoin de mettre en doute cette adoption. C'est important que je chemine avec Dieu, que je sois en ordre avec lui. Et ce verset 11 nous dit « Considérons-nous comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur ». Considérons-nous comme vivants, non pas pour mériter quelque chose de lui, mais parce qu'en tant que disciple, parce qu'il a payé le prix, parce que nous sommes adoptés, notre attitude de cœur désire vivre pour lui. Oui, nous sommes pardonnés, nous sommes adoptés, mais nous sommes appelés à vivre pour lui, à vivre alignés sur ce qu'il souhaite pour nous. Et c'est ce que vous témoignerez aussi après, Jérémie et Dirksi, votre désir de suivre Christ. Alors j'aimerais vous laisser avec deux questions que vous pouvez prendre avec. Il n'y en a que deux cette fois, donc je ne les ai pas affichées, vous allez retenir. Première question, qu'est-ce qui me retiendrait de me faire baptiser? Si vous n'êtes pas encore baptisé, mais que vous avez pu chanter les chants qu'on a chantés, qu'est-ce qui vous retiendrait de me faire baptiser? Et j'en discuterai volontiers une fois avec vous. La deuxième question que j'aimerais vous laisser, c'est comment est-ce que vous vous considérez comme vivant pour Dieu? C'est l'occasion de faire un bilan sur notre parcours de foi. Comment est-ce qu'on se considère comme vivant pour Dieu? Comment est-ce que la semaine dernière j'ai été vivant pour Dieu? Je me suis consacré à lui et comment la semaine prochaine je vais le vivre? Comment est-ce que je me considère comme vivant pour Dieu? En tant qu'Église, nous voulons nous réjouir avec Jérémie, avec Dirksi. Et nous engager aussi à vous accompagner sur ce chemin de foi. Vous aider par la communion fraternelle à suivre cet engagement que vous avez pris de suivre Jésus. Ce n'est pas seulement votre engagement à vous deux, Jérémie et Dirksi, mais c'est aussi l'engagement de toute une communauté derrière vous. Nous toutes et tous, nous avons aussi notre part de responsabilité. Dieu nous confie deux jeunes frères dans la foi. Ces deux jeunes frères doivent pouvoir compter sur notre affection et notre soutien, n'est-ce pas? Et nous sommes particulièrement fiers aujourd'hui de vous entendre dire haut et fort que vous appartenez à Christ. J'aimerais vous demander de vous approcher de moi, Dirksi et Jérémie, si nous allons maintenant entendre vos témoignages et vos confessions de foi.
Bonjour tout le monde. Alors d'abord, je réponds à la question qu'on me posait tout le temps. Oui, j'ai pris un coup de soleil. Voilà. Comme ça, c'est clair, pas d'autres questions. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Je m'appelle Jérémie Vabert, j'ai 15 ans et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant à mes parents de m'avoir élevé dans des valeurs qui sont essentielles pour moi aujourd'hui. Depuis petit, j'ai pu multiplier les expériences avec Dieu, tout comme les pas de foi que j'ai pu vivre pendant mes nombreux camps. J'ai eu l'occasion de grandir dans ma foi au Flambeau, à Interjeune et à l'Église. Dieu a toujours eu une place importante dans ma vie, pas forcément la première, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite lui la laisser. Les miracles auxquels j'ai pu assister, les libérations que j'ai pu vivre, les prophéties que j'ai pu recevoir ne me permettent pas de remettre en question ce Dieu qui est tellement au-dessus de moi, ce Dieu qui m'a gardé et protégé, et croyez-moi qu'il a eu beaucoup de travail avec moi. Ayant reçu le baptême du Saint-Esprit lors du camp Explosion cet hiver, il devenait une évidence pour moi de m'engager publiquement par les eaux du baptême. Aujourd'hui, c'est dans un état d'esprit de reconnaissance que je choisis de laisser le libre accès de ma vie à Dieu, de lui donner les clés de mon cœur. J'avais reçu il y a quelque temps, alors que je chantais « Lion de Juda », l'image de ce lion que j'avais en cage, que j'admirais, que je respectais, mais qui était toujours dans sa cage. Dieu m'appelait alors à ouvrir la cage de ce lion, de le laisser aller et faire régner son autorité autour de lui. Ce lion, ce Jésus, je veux l'accepter aujourd'hui comme étant mon Créateur, mon Sauveur et mon Rédempteur, celui qui est, qui était et qui sera aux commandes de ma vie.
Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dirksi Gonzo, j'ai 19 ans. Je suis né dans une famille chrétienne avec mes deux parents, Yvette et Constant, et mon frère, Costa, et mes deux sœurs, Kathleen et Jovny. Depuis tout petit, j'avais un trouble qui m'empêchait de me développer comme les autres enfants La dysphasie est un trouble de la structure et du langage qui affecte aussi bien l'expression orale que la compréhension. En raison de ce trouble, je me rendais compte que j'étais différent des autres. J'avais beaucoup de complexes et ma scolarité était difficile. Car je ne savais pas comment gérer ce trouble. Beaucoup de gens me décourageaient. J'ai beaucoup prié pendant mes années de scolaire pour surmonter ce défi. En parallèle, je pratiquais le football au niveau d'élite, ce qui me prenait beaucoup de temps et que j'aimais énormément. Plus je grandissais, plus j'avais envie de vivre de ce sport. Au début, c'était vers l'âge de 15-16 ans. Je n'étais pas le plus talentueux, donc je n'étais pas une priorité pour mon club, donc le Lausanne Sport. Je priais énormément pour avoir une carrière de footballeur. J'ai commencé à m'entraîner beaucoup plus qu'avant pour atteindre cet objectif. Après ma scolarité, j'ai fait une école de transition pour trouver un apprentissage qui me correspondait. J'ai profité du temps disponible pour m'entraîner davantage au foot. Je me concentrais plus sur le football que sur ma recherche d'apprentissage. Vers la fin d'année de l'école de transition, j'ai commencé à faire confiance à Dieu pour tous les aspects de ma vie. J'ai continué à marcher avec Dieu pendant mon apprentissage en informatique et au foot où j'étais sur le point de franchir la dernière étape pour devenir footballeur professionnel. Je faisais les mêmes efforts pour le sport et l'apprentissage, mais je perdais peu à peu de l'intérêt pour mon apprentissage. Peu de personnes croyaient en moi, mais certains croyaient en moi, et parmi eux, il y avait Dieu qui croyait en moi avant même que je croie en moi. Mais pour arriver là où je suis aujourd'hui, cela n'a pas été facile. J'ai rencontré de nombreux défis. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la foi de toujours y croire. Le Saint-Esprit m'a aidé à trouver la paix dans ma vie et à ne pas agir en fonction du regard et du jugement des autres. Il m'a surtout appris à écouter sa parole et à croire à son processus qu'il a pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas gérer, mais Dieu me protège et demande d'avoir foi, car le projet qu'il a pour moi est au-delà de mes espérances. Le Seigneur m'a appris à prendre des risques et à avancer sans regret. Moi qui ne m'aimais pas tel que je suis, qui doutais de mes qualités, qui complexais à cause de mes défauts, j'ai appris que Dieu m'aime tel que je suis et il m'a appris à m'aimer moi-même. Parfois, j'ai des moments de doute. J'ai l'impression que Dieu ne répond plus à mes prières. Parfois, je cède à la tentation. Je m'éloigne de lui. J'oublie la puissance de la prière. Je perds la foi et j'ai peur. J'aimerais me faire baptiser pour être purifié de mes péchés et appartenir pleinement au Seigneur. Et j'aimerais ne plus douter de lui. Et je veux être son disciple. Je veux marcher selon sa volonté.
Vos témoignages. Nous allons bientôt passer au baptême. Il y a un rayon de soleil sur la terrasse. Et je relève que c'est unique que nous baptisons deux hommes qui ont fait la une du journal de Cossonay ces derniers mois. Jérémy, il y a quelques mois maintenant, c'était ce printemps, et Dirksy dans l'édition de vendredi. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de lire et si vous voulez faire plus connaissance avec eux, je vous renvoie au journal de Cossonay. Nous allons procéder au baptême et pour ce faire, nous allons nous mobiliser et puis aller vers la terrasse. On va pouvoir empiler les chaises qui sont dans cette partie-là de